La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
Je suis le seul qui aime ça.
J'adore ça, les orages.
Avant
les... Oh. Il y a quelque chose avant.
Oh, moi, je tripe. Oh, oui.
Surtout quand
il y a de l'électricité dans l'air.
Surtout quand tes fenêtres sont fermées, ce qui n'est pas le cas de notre collègue Jean. C'est, les voisins de Jean, pour y voir, les fermer. T'as-tu un bon voisin de confiance ou une voisine
qui a la clé, là?
Oui, n'as-tu un ou une qui pourrait aller te fermer? Pauvre lui. 666666, je peux t'arranger ça. Hein? Je connais Eric. Hein?
Je pense ça pas cher, pas cher.
Mais j'adore les orages. Marc Boilard.
Salut.
Aimes-tu les orages?
J'aime tellement les orages que ça me fait penser à la phrase suivante. Là, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça. Je suis convaincu que du monde, si ce n'est pas vous autres, 25-2-2-6, quelqu'un va se souvenir de la... Je vais dire une phrase. Il va neiger.
Hein?
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 Il va neiger. C'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un, 25-2-2-6, qui ne sait pas c'est quoi ça.
Mais là, il faut-tu avoir 50 ans et plus? Ou,
ça, non, pas de ça n'a aucun rapport. Là? Il fait, je donne un indice. Il fallait... se promener sa grande allée dans les années 90-2000.
Il va neiger.
7 pouces de neige à Montréal. Château Frontenac.
Mais voyons
c'est ça, c'est un politicien?
Non.
Non.
Ben non. C'est, je vous le jure, j'invente rien. C'est des vraies phrases. Je vais vous
est-ce que c'est un personnage genre, il y en a, là, comme lui qui était Claude sur la Catarier. Terrasse du frein. On avait
voilà.
Le petit c'est train ça, du c'est nord. Le
c'est un personnage comme ça. Okay. C'est un caricaturiste.
Ouais.
Qui était en face du Saint-Hubert, donc où le...
Le café...
Le Starbucks.
Ouais, qui
est fermé. Café, ouais.
Ou le il était toujours café. Là, puis il criait avec son accent, parce que j'ai parlé à ce gars-là, il criait tout le temps les trois phrases suivantes. Il va neiger, 7 pouces de neige à Montréal, Château Frontenac. C'était un Texan, je suis allé jaser. Le gars, chaque été, il était à Québec. Je ne peux pas croire que personne ne se souvient
ben
de
ça. Ben, on va attendre.
Non, 25-2-6, ça commence à rentrer. Rentre, c'est juste que je ne peux pas tout le temps vous couper. Hein.
C'était un gars du Texas qui, lui, il vivait de même. C'est-à-dire qu'il faisait des caricatures sa rue pendant l'été à Québec. Il s'installait ici. Je ne me souviens plus trop où il m'avait dit qu'il couchait, là, mais il passait, mais genre, 2 mois, là. Puis après ça, il changeait de ville. Il suivait l'été. Puis l'été, lui, c'était à Québec que ça se passait. Puis pour attirer le monde, il criait tout le temps ça. Il va neiger. Château Frontenac.
Ben, c'est pas pire que Claude, voyons.
Claude Catelier.
Catelier qui a passé sa vie à chanter Le Petit Train du Nord. Ding, 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 ding. Il faisait ça, là, en tout cas. Puis ça, tu l'as-tu connu, Karen?
Non.
Il était où, lui?
Il était sur la terrasse du frein.
Ouais. Ça se peut que je dois m'en souvenir.
Ça se peut que les gens de Québec, peut-être, parce que la terrasse du frein, c'est beaucoup des touristes, mais on a, mais ça, c'est pas vraiment ce qu'il faisait live, mais je pense qu'il nous l'avait fait à la radio. On l'avait interviewé à un moment donné, je pense.
Allons-y, le train du Nord. Le train pour Saint-Adrien.
Ah, c'est lui, ça.
Ah, oui.
On dirait qu'il va vomir.
C'est bon.
Il y avait quelqu'un qui voulait débarquer.
Ça, c'est... Ouais, on a une version au téléphone, parce qu'à un moment donné, j'y avais parlé, puis il nous l'avait fait.
Le prince de Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer. On entend siffler le train du Nord. Tchou, 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 tchou.
Ça pendant des années, Écoute, là, il ramassait de l'argent, là.
Ben oui.
Il chante.
C'était plein, c'était un show, là.
C'était une attraction sur la terrasse du frein à Québec.
Il faisait de la compagnie créole, on va danser collé-collé, comme la colle à contact.
Ouais,
il déformait un peu les paroles, des fois, là.
Tu sais qu'une place, Sylvain, que j'ai visitée, que je suis allé à quelques reprises, où est-ce qu'il y a effectivement plein d'amuseurs de rue, c'est Venice Beach, en Californie. Et à un moment donné, je vois un gars. Écoute, il y avait des attroupements parce que tous les jours, il y en avait plein. Certains qui passent dans les films. Là, il y en avait un avec un gros turban, patin roulette, puis une guitare. On l'a vu dans des films, etc. Je vois un gars, plein de monde, drôle à mort. Tu vois que c'est rodé, son show. Puis il jongle avec des scies à chaîne puis des boules de quilles au-dessus d'un enfant.
Ah,
il pogne un petit kid. Je te le dis, attends un peu, c'est pas fini. Il pogne un petit kid dans ça. Il fait tout le temps la même chose. Monsieur, je l'avais vu 3 fois parce que je suis tout le temps rendu là, tu sais. C'est que là, à un moment donné, il prend un enfant. Je te dirais à peu près comme 6 ans, là. Tu sais, qu'il a, je sais pas, là, comme 3-4 pieds de haut. Puis il dit, couche-toi à terre. Puis là, il met un gros X de tape par-dessus. Comme si ça allait le tenir, tu sais. Puis là, il commence. Puis il dit, je vais jongler au-dessus de toi. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Puis c'est des boules de quilles. Mais des vraies boules de quilles, là. Tu vois, il en laisse tomber une. Il fait blang. Il jongle au-dessus du kid. avec ses trois boules de quilles, et après ça, il jongle avec des scies à chaîne, et après ça, il les part. Mais là, le kid n'est plus là, là. Mais il jongle avec des scies à chaîne. J'ai vu ça de mes yeux. C'est vraiment tout un show. Sais-tu qui a repris ça après, en publicité? Nissan. Un jour, j'écoute...
Ça dit quoi, ouais?
Puis Nissan, c'était lui qui faisait
c'était
ça.
C'était ce gars-là qui jonglait sous un fond blanc avec des scies à chaîne. Puis le message, je me souviens plus exactement c'était quoi. Puis moi, je l'avais vu. C'est dû arriver comme moi, c'est arrivé. Il y a quelqu'un au marketing dans l'agence de pub de Nissan aux États qui a dû dire « Hey, je viens de voir un gars, j'ai eu un flash. On pourrait le prendre pour notre pub, etc. » C'était un amuseur de rue.
Le gars qui jongle avec des scies à chaîne en fonction, là, tu sais, dans la vie, t'as une mauvaise journée, des fois, tu fais une erreur. Tu sais, lui, mettons, à un moment donné, il y a une petite distraction, là, tu sais.
Oui,
mauvais show.
Il file moins.
Il file moins, tu sais. Ça peut avoir quand même des conséquences un peu...
Toi, tu rates un live... Ouais. Dire comme tu dis toi-même, c'est tel que tel.
T'échappes à un café.
Ah non, il l'écoute 20 fois en reprise le soir.
Oui,
chez
non,
eux,
chez...
Mais
le lendemain, il dort pareil avec ses quatre boires, avec tous les membres.
Mais j'ai encore mes mains.
Oui.
Lui,
Hop.
Et puis, il y a du monde à Venice Beach en plus, là, c'est dangereux.
Tout ça pour dire que tous les musiciens de rue et puis les gens comme ça qui sont des personnages, on les voit jour après jour, puis on connaît pas leur histoire. Des fois, là, c'est le fun. L'été, ça serait de quoi.
Il faut leur jaser?
Ben à Québec, on a le danseur ou le bel là, dans la sur Honoré Mercier. Entre la côte d'Abraham, puis ben tu prends Honoré Mercier pour monter vers le Parlement là.
Ouais.
Là t'as l'édifice de Bell qui est là juste à côté du Palace Royal. Il y a un gars qui est là avec ses écouteurs qui danse.
Ah, ouais.
Ça fait au moins 2-3 ans, mais il est plus là là. Il fait juste danser. Le gars c'est un retraité, il a toute sa tête. Il dit j'ai commencé ça. Puis je me suis aperçu que le monde me regardait et m'envoyait le pouce en l'air. Fait que depuis ce temps-là j'ai jamais arrêté. Fait qu'il s'installe là. Puis il danse, mais c'est drôle parce qu'on n'entend pas sa musique. C'est lui à ses écouteurs.
Ben oui.
Un gars qui danse quand on n'entend pas la musique, c'est toujours un peu bizarre parce que t'as pas le beat, tu le vois comme...
Ben non.
Ouais, t'es pas sur le même trip que lui. Là.
Ouais, c'est comme quelqu'un qui chante un peu, là, qui fredonne avec ses écouteurs. C'est jamais bon. Jamais.
Mais il y a un auditeur qui nous dit que Claude Cattelier était fonctionnaire au gouvernement.
Ah, mais je le crois.
Ouais.
C'est capoté un peu. Ça sort de l'ordinaire. Mais le gars dont je vous parle, le danseur, les auditeurs savent c'est qui. Je suis sûr, ceux qui prennent
l'autobus. Oui, il s'appellerait Romuald.
Bon, lui, là, il a l'air qu'une vie bien normale, mais tu le vois aller, tu dis... Lui, dont j'aimerais connaître l'histoire, mais je l'avais connu, mais tu sais, le joueur de guitare des escaliers qui mène de la terrasse du Frêne à la côte de la montagne. Vous l'avez jamais rencontré?
Non.
Si vous l'aviez rencontré, vous seriez souvenu de lui. Il joue de la guitare, il est dans... Bon, terrasse du Frêne, vous vous situez?
Oui.
On s'en va dans la côte de la montagne pour prendre l'escalier casse-cou, mettons. Cet escalier-là, là, qui donne les arbres, c'est magnifique, tout ça. Il s'installe dans ce coin-là. C'est quelqu'un qui a vécu un énorme drame familial, je sais pas, où il y a eu des coups de feu. Puis il y en a eu un d'en face. Ouais. Et il y a tout le temps de personnes qui viennent l'accompagner, parce qu'il est aveugle, puis etc., etc. J'ai déjà vu la personne, puis maudit, j'avais le goût d'aller y parler, mais faut peut-être pas le déranger. Elle l'amène, il s'installe là, puis il joue de la guitare. Puis c'est dur à regarder. Mais là, il y a beaucoup
mais
de courage.
Mais je pense que ça
me
dit quoi,
de... Si vous l'avez déjà croisé, un moment donné, quelqu'un m'avait raconté, mais je pense pas que ça vaille la peine, mais c'est vraiment une histoire triste, un drame familial où beaucoup de gens meurent, puis lui, il survit, mais il survit avec... c'est une histoire qui s'est passée dans le nord du Québec, si je me trompe pas. Donc, tous ces gens-là qu'on voit ont souvent des histoires, on passe en avant, des fois, on leur jase pas, on sait pas si...
Tu me fais penser à un dernier que je veux te dire avant de te parler de mon affaire.
Vas-y.
J'étais au cégep, je sortais avec une fille qui s'appelait Judith, puis à un moment donné, on allait souvent manger à la Trattoria San Angelo, qui maintenant est, tu sais, où dans le petit Champlain, là, il y a une petite brasserie qui est carrément dans le coin, là. Ou le Pape Georges, juste à côté.
C'est ce que j'allais dire. C'est à côté du Pape Georges.
C'est ça.
La fameuse rue des Parapluies qui est devenue la rue la plus Instagrammée à Québec, je pense.
Oui.
Parce que, c'est pas bête. Ils ont juste mis des parapluies en haut. Ça n'a pas dû coûter une fortune, ça.
Non,
c'est
brillant.
Beau, ça.
Ouais.
C'est la petite rue cul-de-sac. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas.
Ben, ça s'appelle cul quelque chose, je pense même.
Ouais.
Le truc. En tout cas, whatever. Ça fait que je suis au cégep, là, mais tu vois, je m'en souviens. Je descends l'escalier, puis Judith, elle me tient le bras. Puis on descend, puis on descend. Puis tout à coup, je remarque que tout le monde me regarde. Tout le monde en bas de l'escalier me regarde. C'est quoi cette affaire-là? Puis je me retourne, puis il y a un gars qui me tient le bras, c'est plus Judith avec un nez de clown rouge. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait que les coupes descendent, puis il cognait sur l'épaule de la fille en disant « Tasse-toi, tasse-toi », puis il se tenait comme un pied en arrière de moi, puis il faisait ça à tout le monde. C'est quoi, tu descends, tu sens rien, tu sais juste comme « Oups, la main a changé », tu descends l'escalier, puis là, tout le monde te regarde. C'est quoi ça? Puis là, tu regardes, c'est un gars avec un nez de clown, c'est plus ta blonde. C'était vraiment malin.
C'est bon. Hey, tu veux me parler... Ah, c'est une belle histoire, ça aussi. Tu veux me parler de loterie et d'honnêteté, dans le fond.
Ben, ouais, puis on va faire un tour de table. Ça va être comme un peu un jeu en même temps, si ça te tente. Elle s'appelle Léa Fiega. C'est au Massachusetts, c'est arrivé avant-hier.
Ouais.
C'est pas une affaire au Bangladesh, c'est arrivé en bas de chez nous, là, Massachusetts. C'est dans le nord-est des États-Unis. Elle s'en va acheter un billet de loterie, un gratteux, OK? Et elle l'oublie dans le magasin. Et c'est retrouvé par le fils qui travaille là, des deux propriétaires qui sont des Indiens. Il s'appelle Abisha, C-H-A-H. Lui, en faisant le ménage en fin de journée, il trouve le gratteux, comme ça, à terre. Et c'est comme, c'est qui, c'est whatever. Il gratte 1 million. Hmm. 1 million de dollars. Il rentre chez eux, dans sa tête à lui, dans l'article,
il est millionnaire.
Ouais. Il est millionnaire. Il dit, je suis millionnaire. Et là, tout à coup, la discussion part avec les parents, qui eux autres savent que la madame Fiega vient toutes les lundis, on était, si je me trompe pas, acheter son petit billet de loterie, etc.
Ouais, ils savent c'est qui.
Ils savent c'est qui. Et là, écoute, ils font même des appels en Inde, la famille est en discussion, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, il voit la madame, lui donne le billet. Il dit, madame, c'est pas à moi, c'est à vous. Vous êtes millionnaire. Question, que feriez-vous? Ça, c'est la question 1. Question 2, récompenseriez-vous la personne? Et à la hauteur de combien?
Écoute, d'abord, c'est sûr que là, on va tout dire oui, puis en même temps, les gens vont dire, oh, ça bien, c'est parce que vous êtes à la radio, mais vous connaissez un peu mon opinion là-dessus, je vous l'ai déjà dit, c'est influencé par des lectures, mais l'être humain est beaucoup plus bon que ce qu'on pense. On se fie beaucoup aux médias, on se fie à... C'est juste les personnes qui font du mal, souvent, qui vont retenir l'attention. Mm-hmm. Autant dans les films, le nombre de films de bandits, puis de mafias, puis de guerres, alors que la vie de tous les jours, l'être humain est... Un tas d'études le démontrent en passant. Je dis pas ça en l'air. Non seulement, moi, il faut qu'ils le remettent, mais je suis convaincu que 90 % à 95 % des gens l'auraient remis, selon moi,
je pense que
par honnêteté. Maintenant, est-ce qu'il faut le récompenser? Absolument. Et on a un test au Québec, les Lavigueurs. Les Lavigueurs avaient perdu leur billet. C'était un anglophone de la Colombie-Britannique, si je me souviens bien. D'un monsieur là, d'anglophone qui avait trouvé ça puis qui l'a remis à la famille Lavigueur et il lui avait donné une part égale. C'est-à-dire qu'il était, mettons qu'il était 7, ils ont divisé en 8, et le monsieur a eu sa part comme tout le monde. Je pense qu'il y a eu 1 million, parce qu'il avait gagné plusieurs millions. Alors, à tes questions, je dirais, il faut le remettre, puis il faut donner, mettons que la madame, là, ils sont 2-3 dans la famille, sans dire que je donnerais la moitié, je donnerais une bonne part aussi, selon moi.
Moi, j'avais le quart dans la tête.
Ouais,
carrément. Moi, la moitié.
La moitié?
Mais oui, mais parce que s'il te le donne pas, t'en as pas.
Zéro.
T'en as plus.
Oui, mais c'est à toi. Il t'a juste redonné ce qui t'appartenait.
Oui, mais ben, il aurait pu le garder.
Bon, non, il n'y a pas de mauvais.
Donc, pour ça, 50 %
Marc.
Moi, je vais dire, moi, c'est la moitié directe pour exactement la raison qu'elle parle.
OK.
Et il y a une je la nommerai pas, mais il y a une éditrice d'une très grosse maison d'édition qui m'a dit qu'elle avait, dans son groupe d'amis, il y a quelqu'un qui avait remis un billet de loterie en cadeau. La personne a gagné. Puis la chicane a pogné que plusieurs de ces gens-là ne se parlent plus du tout, puis que ça changera pas. Ça fait que fais bien attention quand parce que tous tes principes que tu dis, moi j'y crois comme toi, mais quand il y a de l'argent d'impliqué, et calvasse que c'est pas.
Garder les héritages.
Exact. Le rapport à l'argent, là, Sylvain, là, quelqu'un fait 10 cents, il est millionnaire, quelqu'un fait 10 cents, ça par rapport avec combien t'en as? Tu sais, on en parle souvent de ça.
Mais c'est pas
l'argent que tu vas avoir.
C'est l'argent, vous avez raison, mais c'est autre chose. Parce que quand je dis que l'être humain est bon, attention, ce qui corrompt l'être humain, c'est le pouvoir. Et vous parlez des chicanes d'héritage, vous avez parfaitement raison. J'ai déjà jasé avec beaucoup de notaires, c'est épouvantable, si vous saviez, là. Mais souvent, justement, c'est pas l'argent, c'est lui ou elle n'a plus que moi. Pourquoi?
Et
souvent, ils s'astinent. Des fois, c'est des centaines de dollars ou des milliers de dollars. C'est pas des... Voyons, donc, arrêtez ça, là. Vous allez pas briser tout votre... Non, comment ça que pas ou mal a laissé plus à lui
qu'à
elle?
C'est la question de justice.
La question du pouvoir, là, pourquoi lui plus que moi, que l'argent, ça, c'est épouvantable pour ruiner des relations.
Moi, il m'est arrivé une affaire, je vais voir, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, OK? Quand j'étais gérant d'artiste, avec un de mes clients, il y avait eu un imbroglio comme ça qui était causé par mon comptable, qui était son comptable aussi.
OK.
OK? Donc, en un mot, faire une histoire courte. Moi, mettons que, on va l'appeler Sylvain. Quand Sylvain faisait un engagement, moi, je recevais 100 % de sa paye.
Oui.
Je prenais mon 25 % j'y remettais 75 %.
C'est ça la cote d'un agent, à peu près? 25.
D'un gérant, oui. Un gérant.
Ah ouais? OK.
C'est différent d'un agent, je t'explique. Le gérant, c'est pour soit les chanteurs ou les humoristes, c'est-à-dire qu'ils ont des one-man shows qui roulent. Oui. Fait que c'est beaucoup plus de temps d'opération, etc. Un comédien, il attend, hein, il attend. C'est comme, hey, t'as une audition, tu l'as eu, tu l'as pas eu. Ça fait qu'un agent, okay. C'est un peu un passeur de puck, tandis qu'un gérant, t'es le directeur de l'usine, là.
OK. Donc, okay, c'est à peu près 25 %.
Okay. C'est 20-25. C'est bien 25.
OK.
Ça fait que moi, je reçois 100 %, je garde mon 25, je donne le 75, puis etc. Puis tous mes clients avaient un ou une comptable séparée. Puis moi, je voulais ça, parce que je disais, ça fait en sorte que si des fois, moi-même, ma comptabilité, on fait une erreur, bien, toi, ton comptable va le voir. Mais dans ce cas-là, on avait le même comptable.
Okay.
Ce qui veut dire que si on reprend l'histoire, moi, je prends mon chèque,
oui.
Je donne mon chèque à mon client, donc sur 75, lui, il remettait à nouveau à mon comptable, on avait le même,
oui.
Qui ne l'a pas déposé pendant longtemps. Puis ni un ni l'autre, on le savait parce
pourquoi?
Qu'on regardait pas assez nos affaires.
Ben, il déposait pas?
Parce que j'avais des problèmes de liquidité.
OK.
Ça fait qu'on se finançait sur les chèques que l'autre aurait dû encaisser, que finalement, il n'encaissait pas. Moi, je le savais pas, l'autre le savait pas. Moralité, j'ai mis mes culottes.
Ouais.
Parce que quand j'ai su ça, j'ai fait « je te dois », c'était un bon montant, Sylvain, ouais, là, m'a dit, j'avais comme 30 quelques, là, c'était pas drôle. Puis la première fois que j'y ai remis son premier chèque, c'était un chèque de 8 000.
Oui.
Puis dans ma tête à moi, je me suis dit, je vais y rembourser 100 % de tout. Puis le premier 8 000, je vais y montrer. Puis d'après moi, il va me le redonner en disant, « Marc, si ça va pas été toi, j'étais tout aussi négligent que toi, je l'aurais probablement jamais revu, cet argent-là. » Moi, c'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Mais finalement, il a gardé le chèque, puis j'ai remboursé 100 %. Êtes-vous d'accord avec moi ou vous pensez que dans cette circonstance-là, je devais tout rembourser?
Ouais, ben là, tu y devais à 100 %, sauf qu'il y a eu une négligence de la part du comptable, là. C'était pas ta négligence à
toi. On avait le même comptable. Ni moi, ni mon client, les deux. On était, notre erreur aux deux, c'est d'avoir été négligent. Mais moi, j'y devais cet argent-là.
Oui.
Sauf qu'étant donné que comment moi je suis faite, si moi j'avais reçu le chèque de 8 000, le premier chèque, c'est sûr que j'aurais dit, sais-tu quoi? C'est très gentil, t'es d'une honnêteté proverbiale, mais ça, je te le donne, puis on oublie cette portion-là, tu me dois le reste,
ouais,
qui était comme encore pas mal plus.
Ouais.
Parce que, c'est juste te montrer que de son point de vue, il n'y a pas tort, j'y devais l'argent, mais de mon point de vue, je me sentais comme si lui, il avait traversé la 20 Québec-Montréal en sens inverse en se disant, hey, je suis chanceux, il n'y a pas de trouble, mais moi, tout le long, j'étais en avant en train de klaxonner, puis en disant à tout le monde, tassez-vous. Non, mais c'est de même, moi, je l'ai vu.
Mm. Ouais, c'est ça, la différence de perception. C'est encore ton ami?
Ben oui, c'est sûr. Parce que c'était une des raisons pour laquelle j'ai dit, moi, je dirais... Ah ben oui. Puis regarde, j'en parle public. Pourquoi? Parce que honnêtement, c'est une affaire qui est en arrière.
Oh oui.
Puis c'était justement parce que je me suis dit, ça vaut plus, une amitié vaut plus tant qu'à moi. Mais ça, c'est mes critères. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, Karen, toi, moi, on se dit, oui, attends, puis là, s'il y a quatre personnes, on va... Ça dépend comment on voit le rapport à l'argent. C'est-à-dire que c'est quand il y a de l'argent qui arrive... Moi, je t'avais compté la fois avec Andy Norman, qui nous avait fait venir une gang de jeunes de Juste pour rire. Puis il dit, ah, c'est parce qu'on a des... Tu sais, j'aurais besoin de toi, je veux parler à des jeunes qui sont, tu sais, qui sont délurés. C'était pour vendre des bons de l'État d'Israël. Je veux dire, s'il y a une affaire que le rapport à l'argent qui est différent, c'est bien les Juifs versus nous autres. Eux autres, l'argent, c'est pas du poison, là. C'est pas du genre, oh mon Dieu, on est gêné. Ça fait partie de la vie, on s'entraîne entre nous autres, blablabla. Bla, bla. Le rapport à l'argent, Sylvain, ça définit quelqu'un quasiment. Des fois, c'est à 100 %, c'est malade.
Ouais. Non, c'est une des choses qui peut foquer dans les familles ou etc., dans les couples. Il y a presque la moitié des divorces qui disent que c'est dû à des problèmes financiers. Pas nécessairement une chicane d'argent ou une patente de vol, là, mais que
c'est relié à l'argent.
Ouais, Sylvain, ouais. Si tu savais le pourcentage de couples qui ignorent les finances de leur conjoint, tu capoterais.
Ils savent pas.
Tu capotes, non.
Mais attends un peu, d'un autre côté, est-ce que tu es obligé de savoir tout de l'autre alors que si vous avez des choses en commun et que tout est payé, tout est correct?
Ça dépend c'est quoi le système de gestion. Moi, j'ai un de mes amis, c'est tu sais quoi son système? Il y a plein de monde qui font comme, oh mon Dieu, moi je trouve que c'est complètement génial. Ils ont une carte de crédit de couple. Tout ce qui est un achat conjoint, ça va sa carte de crédit à la fin du mois 50-50. Ciao, bye. Bing, bang. Il n'y a plus aucune discussion d'argent. L'épicerie, l'hydro, le tout, ce qui est deux, sa carte de couple. Le reste, c'est chacun s'il veut. Puis pourquoi ne pas inviter ma blonde en voyage, ça me fait plaisir. Tout est permis, mais toutes les discussions du qui paye quoi, c'est terminé. Sauf que ça fait comme, mon Dieu, que ça fait comptable. Ben, c'est ça. Mais sauf qu'eux autres, des problèmes d'argent, ils n'en ont pas.
Merci, Marc.
Salut.
26. Salut.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.